La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à notre émission hebdomadaire La parole des contes. La semaine dernière, nous avions vu Les paresseux dans les recueils des frères Grimm. Et nous avions terminé par une fileuse paresseuse et bien rusée qui avait fait tourner en bourrique son mari, qui voulait quand même la faire travailler, mais bon, il n'y est pas arrivé. Il y a d'autres histoires encore de filles paresseuses que le mari cherche à faire travailler. Et là, nous allons découvrir les trois fileuses. Donc, ça va être l'histoire aussi d'une fille paresseuse, une très jeune fille paresseuse, et qui va recevoir l'aide de personnes surnaturelles ou pas. Donc, voilà. Donc, je vous propose la première version, les frères Grimm. La seconde, une version charentaise en patois de Paul Delarue, et pour terminer, Giambattista Basile, le conte des contes. Donc, pour commencer, les trois fileuses de Grimm. Avait beau dire et faire ce qu'elle voulait, elle ne parvenait à rien avec sa fille. À la fin, la mère perdit patience et s'emporta d'une si grande colère qu'elle battit sa fille. Et la fille poussa des cris, des hurlements et pleura. La reine, qui passait justement par là, entendit ses pleurs et ses gémissements. À fendre l'âme, elle fit arrêter son carrosse, entra dans la maison, demanda à la mère pourquoi sa fille pleurait, en ameutait tout le voisinage. Honteuse d'avoir à révéler la paresse de sa fille, la mère déclara « Oh, c'est que je n'arrive pas à lui faire lâcher son fuseau. Elle est là, qui file et qui file et qui file sans arrêt. Et moi, je suis pauvre et je ne puis pas lui fournir le lin. » « Oh, je n'aime rien tant que le bruit de rouet qui tourne, » dit la reine. « Et je me plais à entendre filer. Laissez votre fille venir avec moi au château. J'ai du lin en quantité et elle pourra filer autant qu'il lui plaira. » La mère en fut bien aise dans son cœur et la reine emmena la jeune fille. Quand elles furent au château, la reine conduisit la jeune fille à trois chambres qui, du plancher au plafond, étaient pleines du plus beau lin. « Tout le lin que tu vois là, dit la reine, tu vas me le filer à présent. Et quand tu auras fini, tu auras mon fils aîné comme mari. Si pauvre que tu sois, je n'y prendrai pas garde. Ton zèle persévérant te suffira comme dot. » La jeune fille en eut froid dans le dos, car tout le lin qu'il y avait là, jamais elle pourrait arriver à le filer, même si elle vivait pendant 300 ans et travaillait sans s'arrêter du matin au soir, sans sauter un seul jour. Elle n'en laissa rien voir. Mais dès qu'elle fut seule, elle se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer, et resta trois longs jours dans ses larmes sans seulement bouger le petit doigt. Le troisième jour, la reine reparut et fut très étonnée en voyant que la jeune fille n'avait rien fait du tout. La jeune fille s'excusa en prétendant que son chagrin d'être loin de chez elle et de sa mère l'avait troublée et empêchée de s'y mettre. La reine s'en contenta. Au moment de s'en aller, elle lui dit « Demain, il faut que tu commences à travailler. » Dès qu'elle fut seule à nouveau, la jeune fille se demanda désespérément comment elle allait se tirer d'affaire et quels moyens elle pourrait utiliser. Mais elle ne trouvait rien. Et dans son angoisse, elle alla se planter à la fenêtre. Elle vit alors trois vieilles femmes qui approchaient. La première avec un pied plat. La seconde avec une lèvre qui lui tombait sur le menton. Et la troisième, avec un pouce comme une palette. Elles s'arrêtèrent sous sa fenêtre, regardèrent vers la jeune fille et lui demandèrent ce qui lui manquait. Elle se plaignit de son affaire. Et les femmes lui proposèrent de venir à son aide, en lui disant « Pourvu que tu nous invites à ton mariage, que tu n'aies pas honte de nous et que tu nous appelles tes cousines, et aussi que tu nous fasses asseoir à ta table, « nous allons te filer ton lin et ce sera vite fait. »«
Volontiers et de tout cœur !» répondit la jeune fille. « Venez et commencez le travail tout de suite !»
Elle fit donc entrer les trois étranges femmes et leur aménagea une place libre dans la première place où elles s'installèrent et se mirent aussitôt à filer. La première tirait l'étoupe et faisait tourner le rouet avec son pied, avec la pédale. La seconde mouillait le fil avec ses lèvres. Et la troisième le retordait et l'égalisait avec le pouce sur la table. À chaque coup, c'était un écheveau entier qui tombait sur le sol et du lin le plus fin filé. Elle veilla à cacher les trois fileuses à la reine, tout en lui montrant chaque fois qu'elle venait la quantité de lin filé. Et la reine ne pouvait pas mettre fin à ses louanges. La première chambre vidée, ce fut le tour de la seconde, puis de la troisième, qui fut terminée en un rien de temps. Après quoi, les trois femmes prirent congé de la jeune fille et lui rappelèrent en s'en allant « Et n'oublie pas ce que tu nous as promis. Ce sera ton bonheur. » Quand la jeune fille eut fait voir à la reine les chambres vides et les tas de lin filé, le jour des noces fut arrêté et le fiancé fut enchanté d'avoir une femme aussi active et d'une telle habileté et il l'en félicita grandement.
« J'ai trois cousines, » lui dit la jeune fiancée, « et comme je leur dois beaucoup, je voudrais pas les oublier dans mon bonheur. Puis-je les inviter au mariage? Et aurais-je la permission de les faire asseoir à ma table? »
Pourquoi ne le permettrions-nous pas? Répondirent la reine et son fils aîné. Lors donc que commença la fête nuptiale, les trois vieilles filles arrivèrent dans le plus bizarre accoutrement et l'épousé les accueillit en disant «
Soyez les bienvenues, mes chères cousines !»
« Oh !» dit le prince à sa jeune femme, « comment peux-tu avoir une parenté aussi laide ?» Puis, se tournant vers celle qui avait le pied plat, il lui demanda « mais d'où vous vient un pied aussi large ?»«
Ah, c'est le rouet ! C'est le rouet ! À force de appuyer sur la pédale du rouet ?»
Il se tourna vers la seconde et demanda « Mais d'où vous vient cette lèvre qui pend ?»«
Ah, c'est le fil ! C'est de mouiller le fil !»
Et à la troisième « D'où vous vient ce pouce énorme ?»«
Ah, de retordre ! C'est de retordre le fil en les tirant !»
Alors le fils aîné du roi en fut tout effrayé et déclara « Jamais, au grand jamais,
À partir d'aujourd'hui, ma belle épouse ne touchera à un rouet. »
Grâce à quoi elle en fut quitte avec l'odieux filage du lin. Voilà pour elle. Folklorique charentaise pour introduire notre conte trouvé donc dans le conte populaire de Paul Delarue, et c'est une version charentaise en patois. Alors j'aurai certainement pas le bon accent, et puis vous allez voir que c'est quand même un patois soutenu, hein. Les mots on les comprend pas tous, hein. Et donc c'est toujours la même histoire, mais avec des petites variantes, vous allez voir. Donc, il était un homme qui se promenait. Je pense qu'il se promenait de long en large devant la porte de sa maison. Et il avait l'air de s'ennuyer, dit le texte. En marchant, il disait « 1, 2, 3, passe !»« Mais 7 !»« 1, 2, 3, passe !»« Mais 7 !»« 1, 2, 3, passe !»« Mais 7 !» Et par hasard, il passe le roi. Et le lui demandit ce que l'avait à s'ennuyer. Et quel homme qui dissite. Eh, c'est que j'ai ma fille qui file 7 fusées de fil par serré.
Il a des 7 crêpes que sa fille mangeait par serré.
Et il avait dit au roi qu'elle filait 7 fusées. Mais c'était pas vrai. Eh ben, le roi dit. Je vous la loue pour la faire filer.
Et elle avait jamais filé.
Donc le roi s'en va. Et l'homme rentre chez lui où il y avait sa fille qui devait continuer à manger des crêpes. Quand l'homme fut rendu chez lui, le zou décide à sa fille. Alors le zou. C'est ça, cela. Et donc, il dit ça à sa fille, qu'elle avait trouvé le roi et qu'elle était louée chez lui pour filer. Oh, qu'elle décide, qu'elle dit, « Oh, moi que jamais filé !»« Ah, ben tant pis !» qu'il lui dit son père. Et donc, le lendemain, la voilà partie chez le roi. Le roi la mettit dans une chambre avec une poignée de charbe. Alors, le charbe, c'est le chanvre. Une quenouille et 2 fusas. Toute la journée, la lui portant à manger. Mais elle avait rien de filé. Elle mangeait, mais ne faisait pas d'ouvrage. Le roi dit à sa mère, « Ah, je ne suis pas ben tombé. » La fileuse, elle file point. Quand il fut à la veillée, la drôlesse disait « Oh, mon Dieu, moi qui ai mise la porte ben filée et que jamais filé, j'ai jamais eu l'envie. » Et puis elle entendit dans la cheminée « frut, 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 frut » et descendit une dame. Et la dame qui dit « Bonsoir, fileuse. Oh, fileuse point trop, j'étais mise là. » Sauf ben pour ben filer, mais j'ai jamais filé, jamais eu l'envie. Et que donneriez-vous point que la chambre soit filée? Ben j'ai rien à donner, hein, qu'a décrit, qu'a dit. Sauf mon âme engagée. Ouais, vous n'engagerez point votre âme, sauf ça. Que dit la vieille femme? Mais vous m'inviterez à votre noce. Eh, ce sera assez. Oh, je vous inviterai bien. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle « Madame, m'en tombe à vous !»
Le lendemain, le roi vint voir ce qu'elle avait filé de son chanvre. Et puis, il trouvait tout son fil fait. « Ah ben, qui dit ?»« Il va vous en aller chercher un autre paquet ?»« Allez là, c'était la même chose. » La drôlesse arrivait à la veillée sans avoir un filet de la journée. Et puis, elle entendit dans la cheminée, frout, 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 elle en descendit une dame. « Bonsoir, fileuse, qu'est dit la dame. »
« Ah ben, fileuse point trop, hein. Il était mis là, certes, pour filer, mais j'ai jamais filé. Et puis, jamais eu l'envie. Jamais. »
Et que donneriez-vous point que le chanvre soit filé?
Ouais, j'ai rien à donner. Qu'à décider de même, sauf mon âme, à engager.
Mais vous n'engagerez point votre âme. Qu'il soit dit, cette femme.
Mais vous m'inviterez à votre noce. Et ce sera assez.
Ouais, je vous y inviterai ben. Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Madame Grandin.
Le lendemain, ça a été la même chose. Le roi vint voir si elle avait filé du chanvre. Il le trouvait, son fil fait. Ah, il lui en donna un autre paquet à filer. La pauvre drôlesse qui savait point filer passit encore sa journée sans rien d'ouvrage. Et puis le sourire, elle entendit encore dans la cheminée, frut, 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 frut. Il en descendit une autre dame.
« Bonsoir, fileuse. »«
Oh, fileuse, point trop, hein. J'étais mise ici pour ben filer, c'est vrai, mais j'ai jamais filé, moi. Et puis, j'ai jamais eu l'envie, hein. »«
Que donneriez-vous point que le champ soit filé ?»
Ouais, j'ai rien à donner, madame. Sauf mon âme.
Mais vous n'engagerez point votre âme pour ça.
Sauf que vous m'inviterez à votre noce.
Ouais, ce sera assez bien.
Je vous inviterai bien, mais comment vous appelez-vous?
Ouais, je m'appelle Madame Gros Yeux.
Eh ben ouais, je vous inviterai et tout. Quand le troisième paquet de chanvre fut filé, le roi dit
« Ah, j'avoue, tout ça est fini.
Vous n'avez plus à filer. » Qu'il lui dit
« Je vais me marier avec vous. J'achèterai du chanvre et vous filerez en quantité. »
Ah ben, il dit « Oui,
mais... » Est-ce que je peux inviter qui je voudrais à ma noce?
Vous inviterez qui vous voudrez, qu'il lui dit le roi.
Et quand elle arrivit dans sa chambre, elle dit, Madame Mentombe à vous, je vous invite demain à ma noce.
Il pouvait ben lui dire, puisqu'elle était arrivée, sauf qu'elle cheminait, et puis... Elle a dit de même aux deux autres, « Madame Grandin, Madame Grosyeux, je vous invite à ma noce. » Et puis, quand le matin des noces arrivit, Madame Menton-Bavou était là. À vous, le marié, oh, l'était le roi, il dit que vous connaissez point.
Oui.
Elle demandait à cette dame-là comment elle s'appelle. Elle décide, « Oh, je m'appelle Madame Menton-Bavou. » À force de filer, il y a le menton bas vous, comme vous voyez.
Et puis, ça a été la même chose pour les deux autres. La deuxième, Madame Grandin, il lui demande, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Madame Grandin. J'ai trop mordu le chanvre. C'est ça qui m'a fait venir des grandes dents.
Et pour... Il interroge la troisième. Comment qu'elle s'appelle?
Ah, moi, c'est Madame Gros Yeux qui a dit.
Eh, C'est à force de trop regarder, se filer comme Ima, mes yeux.
Et puis toutes les trois, elles dirent au roi pour le bonheur de la jeune épousée.
Ah, si la mariée d'aujourd'hui file, comme ce nous qu'on a filé, adviendra comme nous. Oh, ben le roi lui dit, jamais la mariée d'aujourd'hui ne filera. Et voilà, c'est tout. Alors, donc Paul Delarue nous dit qu'il a recueilli cette histoire dite par Mademoiselle Lavaux, cultivatrice de 79 ans, qui habitait dans la commune de Montjean en Charente, et elle avait conté ça à Mademoiselle Geneviève Massignon en octobre 1959. Italien des années 1635, quand donc Giambattista Basile écrivit ce recueil Le Conte des Contes, où il y a 10 journées et où chacun raconte des histoires. Et donc là, on est dans la quatrième journée et le quatrième divertissement. Les sept petites couannes. Il était une fois une vieille misérable qui, une quenouille à la main, déversant sans cesse sa salive sur les gens, allait de maison en maison pour demander l'aumône, et qui, sachant que l'artifice et la tromperie font vivre une bonne moitié de l'année, laissa entendre à certaines femmes au cœur un peu trop tendre et crédule qu'elle voulait faire une belle fête bien grasse pour une de ses filles un peu maigrelettes. Elle obtint de la sorte 7 petites couannes de lard qu'elle emporta chez elle avec une brassée de petites branches glanées par terre en chemin. Elle donna le tout à sa fille en lui disant de les préparer tandis qu'elle-même irait chez le jardinier chercher quelques légumes pour mijoter une petite soupe. Saporita, ainsi se nommait la fille, prit les couennes, les flamba pour ôter les soies, les mit dans une petite marmite et commença à les faire cuire. Tandis qu'elle bouillait dans la marmite, elle les sentait bouillir dans son gosier et l'odeur qui s'échappait du plat était un défi mortel sur le champ de bataille de son appétit. Une citation ad informandum à la banque de sa langue. Elle résista tant qu'elle put. Mais à la fin des fins, aiguillonnée par le parfum de la marmite, poussée par sa gourmandise naturelle et le gosier tiraillé par la faim qui la rongeait, elle se hasarda à en goûter une lichette, qui lui sembla si savoureuse qu'elle se dit en elle-même « Les poltrons font les meilleurs gendarmes, puisque j'y suis. Mangeons, adieu va, le ciel peut bien me tomber sur la tête !» Qu'est-ce donc, après tout, un peu de lard? J'ai assez de cuir sur les épaules pour les payer, ces petites couannes.
Et hop, sur ces belles paroles, elle descendit la première, puis comme son estomac la faisait encore plus souffrir, elle mit la main sur la deuxième, ensuite elle piqua la troisième et ainsi de suite, l'une après l'autre, elle les engloutit toutes les sept. Et quand elle eut accompli ce beau méfait, elle vit son erreur, et pensant que ses couennes pourraient lui rester en travers du gosier, elle imagina de tromper sa mère en coupant une vieille semelle en 7 morceaux qu'elle mit ensuite dans la marmite. Sur ce, la mère rentra avec un petit tas de brocolis qu'elle débita avec la queue pour pas en perdre une miette. Quand elle vit que la marmite bouillait à gros bouillon, elle y jeta les légumes, ajouta encore un peu de sein doux qu'un cocher avait récupéré du graissage d'une voiture et lui avait offert en aumône. Elle étala un bout de tissu sur une vieille caisse en peuplier et tira de sa besace 2 vieux quignons de pain rassis qu'elle émietta sur une planche de bois. Puis elle versa dessus les brocolis et les morceaux de cuir. Elle commença à manger et se rendit compte aussitôt que ses dents n'étaient pas celles d'un cordonnier. Et que qu'est-ce que c'était que cette nouvelle métamorphose ovidienne? Les couennes de porc étaient devenues de la panse de buffle? Alors elle se tourna vers sa fille et lui dit: « Mais qu'est-ce que t'as encore combiné, maudite truie? Quelle saloperie as-tu mis dans la soupe? Tu prends ma panse pour une vieille chaussure, que tu lui offres ainsi une semelle? Allez, à vous, et vite! Le pourquoi et le comment, sinon il vaudrait mieux que tu ne sois pas née. Tu peux compter tes os. » Saporita commença par nier. Mais la douleur de la vieille se fit toujours plus mugissante. Alors elle accusa la vapeur de la marmite qui lui avait brûlé les yeux et l'avait poussée à cette mauvaise action. Voyant son repas bien empoisonné, la vieille agrippa un balai et commença à le faire tournoyer 6 fois, 7 fois de suite, et ça tombait où ça pouvait. Les hurlements de la malheureuse attirèrent un marchand qui passait par là et qui, voyant la cruauté de la vieille, lui ôta le gourdin des mains et lui dit: « Mais qu'as-tu donc pu faire cette pauvre fille pour que tu veuilles ainsi l'achever? Est-ce que tu l'as châtie ou est-ce que tu l'as trucide? L'as-tu prise à affûter des dards ou à vider des bourses? N'as-tu pas honte de traiter ainsi une pauvre mignonne ?»« Ah, tu ne sais pas ce qu'elle a fait !» répondit la vieille. « Cette effrontée voit que je suis misérable et elle n'a aucune pitié. Elle veut que je me ruine en médecin et apothicaire. Je lui ai dit de ne pas s'échiner comme elle fait par ses chaleurs pour ne pas tomber malade, car j'aurais pas de quoi la soigner. Et cette prétentieuse a voulu ce matin tout exprès pour me narguer, filer 7 fuseaux au risque d'attraper quelques coups au cœur et de rester clouée 2 mois au fond de son lit. » En entendant ce discours, le marchand pensa que cette fille si travailleuse pourrait devenir la fée de sa propre maison. Et il dit à la vieille: « Calme donc ta colère. Je vais débarrasser ta maison de ce danger. Je prends ta fille pour épouse et je l'emmène chez moi. Elle sera traitée comme une princesse, car je suis, grâce au ciel, bien pourvue en poules, en porcs gras à souhait, en palombes, et ma maison est si remplie de tout le nécessaire que je ne peux même plus m'y déplacer. » Des tonneaux de blé, des caisses de farine, des jarres d'huile, des marmites et des vessies pleines de sein doux, des vaisselliers fournis, des monceaux de bois, des tas de charbon, des armoires de linge, un grand lit et surtout des loyers et des rentes, j'ai tout cela à foison et je peux vivre en grand seigneur,
Ajoute à cela que je vais investir chaque ducat à la foire et si tout va bien, je deviendrai richissime.
Ah, voyant cette bonne fortune qui se déversait sur elle alors qu'elle s'y attendait le moins,
la vieille prit Saporita par la main et la remit entre les mains du marchand, comme on fait à Naples, en disant « La voici, qu'elle soit à toi dès cet instant, et pour 1000 ans, santé et beaux héritiers !»
Prenant Saporita dans ses bras, le marchand l'emmena chez lui, et il attendait avec impatience que ce fût jour de marché pour aller faire ses achats. Le lundi venu, il se leva de bon matin, alla au marché des villageoises, acheta 80 échevaux de lin et les apporta à Saporita en lui disant « Voilà, file tant que tu veux, ne crains rien. Tu ne trouveras pas ici une autre folle enragée comme ta mère qui te brisait les os parce que tu remplissais des fuseaux. Moi, pour 4 échevaux de lin, je te donnerai 4 douzaines de baisers. Et pour chaque rocher que tu embobineras, je dévidrai mon cœur. Alors, courage, mets-toi au travail. Et quand je reviendrai de la foire, dans 20 jours environ, si je trouve ces 80 échevaux de lin filé, je t'en ferai une belle paire de manches de toile rouge, toutes ourlées de velours vert.
Mais oui, va, dépêche-toi,
répondit Saporita, et à voix très basse pour qu'il n'entende pas,
c'est comme si ton fuseau était rempli. Cours toujours et va te faire foutre. Si t'attends que je te couse des chemises, tu peux te pourvoir des appressants de vieilles nippes. Pour qui me prends-tu? Ai-je tété une chèvre satanique pour filer en 20 jours 80 échevaux de lin? Maudite soit la barcasse qui t'a fait passer par ici. Allez, tu peux toujours attendre. Ton lin sera filé quand le foie sera garni de poils et les singes de queue.
Une fois le mari parti, comme elle était aussi gourmande qu'elle était paresseuse, elle ne fit rien d'autre que puiser des cornets de farine, des mesures d'huile pour se préparer des beignets et des pizzas qu'elle rongeait comme une souris et engloutissait comme un porc du matin jusqu'au soir. Comme le jour du retour de son mari approchait, la peur commença à lui serrer les boyaux. Lorsqu'elle pensait au vacarme et au fracas qu'il y aurait si le marchand trouvait le lin intact et les mets et les jarres vides. Alors elle prit une longue perche et enroula 4 échevaux de lin avec les toupes et les échardes. Puis elle piqua une citrouille sur une grosse fourche et attacha la perche au garde-corps du balcon. En guise de récipient, pour mouiller son doigt, elle remplit d'eau une grosse bassine. Puis elle fit descendre ce maître fuseau depuis le balcon jusqu'à terre. Elle filait ainsi des fils fins comme des cordages de navire, en arrosant les passins comme en carnaval chaque fois qu'elle mouillait son doigt, quand des fées vinrent à passer, qui manquèrent de s'étrangler de rire devant cette scène grotesque. Aussi, lui accordèrent-elles que tout le lin de la maison se trouva par un sortilège filé, tissé et blanchi. La chose fut réglée en un battement de cils, si bien que Saporita, voyant cette bénédiction que le ciel faisait pleuvoir sur elle, nageait dans la plus grasse allégresse. Toutefois, afin que son mari ne soit plus jamais chatouillé par l'envie de l'avoir travaillé, elle se mit au lit, avec sous les couvertures une grande mesure de noix. Et quand le marchand arriva, elle se mit à se lamenter en se tournant d'un côté, de l'autre, en faisant craquer les noix, comme s'il s'agissait de ses os. Son mari lui demanda comment elle allait, et elle répondit avec une petite voix tout affligée. « Oh, je ne pourrais pas aller plus mal, mon cher mari, je n'ai plus un os valide. Pensais-tu donc que filer 80 échevaux de lin en 20 jours et tisser aussi la toile, c'était comme ramasser un peu d'herbe pour la chèvre? Allez, mon petit mari, tu n'as pas voulu payer la matrone et l'âne a mangé le bénéfice. Quand je serai morte, ma mère ne t'en fera pas une autre. Hein. Alors ne m'oblige plus à ces travaux de chien, car je ne voudrais pas, pour remplir des fuseaux, vider le fuseau de ma vie. Son mari lui fit 1000 caresses et lui dit « Soigne-toi plutôt, ma chère femme, car je tiens plus à ce beau châssis d'amour qu'à toute l'étoile du monde. Je comprends aujourd'hui que ta mère avait raison de te punir lorsque tu travaillais trop, puisque tu y perds ta santé. Mais réjouis-toi. Je ne vais pas regarder à la dépense pour te faire soigner. Attends, je vais de ce pas chez le médecin. » Et il courut appeler un maître S-Bobo. Pendant ce temps, Saporita engloutit les noix, jeta les coques par la fenêtre. Quand le médecin arriva, il lui prit le pouls, scruta son visage, examina son urine, renifla son pot de chambre et conclut avec Hippocrate et Galien qu'elle était malade d'une trop grande abondance de sang et d'un trop grand manque de travail. Le marchand prit cela pour une colossale ineptie, lui fourra un carlin dans la main et renvoya à sa puanteur. Comme il voulait s'enquérir d'un autre praticien, Saporita lui dit que ce n'était pas nécessaire, que simplement de le voir lui suffisait à la guérir. Alors son mari lui dit de vivre désormais sans travailler, car on ne peut d'une même terre obtenir du vin grec et des choux, et avoir barrique pleine et servante saoule. Et chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.